Et jusqu'à 9h, grand entretien spécial dans le 7-9 de France Inter. Notre invité est l'ancien président de la République, François Hollande, qui publie chez Stock les leçons du pouvoir. François Hollande s'y livre à une forme d'introspection politique, mais aussi personnelle, une description de ce que sont les pouvoirs et les limites du pouvoir d'un président. Retour donc sur un quinquennat marqué par l'horreur terroriste, par des réformes économiques contestées, compliquées à mettre en œuvre. Un quinquennat pendant lequel la gauche s'est déchiré avant de sombrer. Et puis un quinquennat qui reste singulier sur le plan politique, car il aura été le seul avant le renoncement, avant l'impossibilité d'en briguer un second, et l'élection qui s'en est suivie d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être ce matin au micro d'Inter. Léa Salamé, Bernard Guetta, Thomas Legrand et moi avons évidemment de très nombreuses questions à vous poser sur ces années à l'Élysée. Ami auditeur, François Hollande dialoguera directement avec vous en Facebook Live à partir de 9h. Léa Salamé, on commence avec la Syrie.
Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Tiens-toi prête Russie, les missiles arrivent, a prévenu Donald Trump hier dans un tweet après l'attaque manifestement chimique du week-end dernier. Washington et Paris s'apprêteraient à frapper le régime de Bachar el-Assad. Soutiendrez-vous des frappes contre ce régime ?
D'abord merci de poser cette première question sur le sujet le plus grave du moment. Je veux d'abord revenir sur ce qu'a été ma responsabilité, puisque j'ai écrit un livre, c'est pour évoquer ce qu'ont été les thèmes et peut-être les décisions les plus lourdes que j'ai eu à prendre. Et celle sur la Syrie figure parmi, à mon avis, les plus lourdes de conséquences. Je veux rappeler simplement des faits et revenir ensuite à la situation d'aujourd'hui. En août 2013, le régime syrien de Bachar el-Assad utilise l'arme chimique dans un quartier du Damas et provoque la mort de 1300 personnes et des centaines de blessés. Le président Obama, alors responsable des États-Unis, avait fixé ce que l'on appelait une ligne rouge, disant que s'il y avait utilisation des armes chimiques, il y aurait une réaction, y compris par la force. J'ai eu de longs entretiens, deux fois avec le président Obama, parce que...
Que vous racontez dans le livre,
je voulais qu'il puisse y avoir une réaction à la hauteur de l'acte qui avait été commis. Je rappelle que les armes chimiques sont prohibées par toutes les conventions internationales et que ce sont des morts atroces qui ont été provoquées sur des femmes, des enfants.
Il va vous lâcher, la veille.
Au moment où j'avais moi-même pris la décision, le Conseil de défense était rassemblé et il n'y avait plus qu'à donner l'ordre pour que les frappes puissent être menées sur des installations militaires du régime de Damas. Le président Obama considère qu'il faut choisir une autre option, c'est-à-dire convoquer au plan intérieur le Congrès des États-Unis, c'est respectable, et ouvrir une possibilité de négociation pour que les armes chimiques soient détruites. Je me suis élevé contre cette décision parce que j'ai considéré que ça allait avoir des conséquences, et on les connaît. Le régime a été conforté dès lors qu'il pouvait agir en toute impunité. Les Russes sont intervenus, ils n'étaient pas présents à l'époque en Syrie. Les Iraniens, pas simplement avec l'appui du Hezbollah, directement en Syrie, s'y sont également installés. Et Daesh, qui n'existait pas, il y avait bien sûr des groupes fondamentalistes, mais a pu émerger. Donc, presque 5 ans après, de
aujourd'hui,
nouveau, nous en
qu'est-ce
sommes
qu'on
là.
Doit faire,
des armes chimiques ont été utilisées. Ce n'est pas niable. Et l'utilisation de ces armes, c'est le régime. Il n'y a pas d'autre hypothèse. Parce que le discours russe et syrien, qui voudrait que ce soit les opposants, qui se soient eux-mêmes mis du chlore et du gaz sarin sur leur visage pour susciter une réaction internationale, c'est un scénario qui, hélas, rappelle d'autres épisodes de notre histoire humaine. Donc, il y a une frappe chimique, il doit y avoir une réaction de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité, c'est la 12e fois que la Russie pose son veto, ne peut pas donner, c'est dommage, une légalité internationale.
Donc, mais
je soutiendrai,
Paris et Washington...
je soutiendrai toutes les réactions, y compris militaires, parce que ce qui a été commis en Syrie est inadmissible et ne doit pas être sans réponse. Je ne suis pas favorable à ce qu'on dise toujours ligne rouge, parce que quand on dit ligne rouge, et qu'elle est franchie, il y a une automaticité. Or, moi, tout ce que j'ai fait sur le plan diplomatique et sur le plan politique, c'est ne pas me lier les mains. Mais aujourd'hui, sans doute avec une efficacité qui sera limitée parce que nous ne sommes pas dans la même situation qu'en 2013. Je suis pour qu'il y ait une réaction forte par rapport à ce qui s'est passé en Syrie,
Bernard,
et dont le seul responsable est Bachar Assad. J'ajoute que comment imaginer que Bachar el-Assad, dont on dit qu'il a une nouvelle fois utilisé des armes chimiques, puisse être la solution pour l'avenir de la Syrie.
Bernard Guetta.
Alors François Hollande, si l'on exclut un compromis de dernière minute, d'ailleurs, est-ce que vous excluez un compromis de dernière minute entre les Russes et les Occidentaux ?
Lequel ?
Je ne sais pas. Est-ce que vous l'excluez ? Oui, a priori, oui.
Bah, quel serait le compromis possible ? Ça serait de dire, Bachar el-Assad ayant commis cet acte,
S'en va.
Il s'en va, et avec une équipe nouvelle, c'est d'ailleurs l'esprit de
le
la conférence de Genève,
exclu.
Voilà
le
seul compromis possible.
Le compromis est exclu, et dans ces conditions, les Russes disent qu'ils riposteront au tir de missiles par leur défense antimissile, et beaucoup plus grave, qu'ils frapperont les sites de lancement de ces missiles, c'est-à-dire des sites français, américains, britanniques. Alors, Monsieur le Président, c'est la guerre ?
François Hollande.
Que les Russes élèvent le niveau de la menace ou de la dissuasion, on peut le comprendre, puisqu'ils soutiennent depuis le départ Bachar el-Assad. Mais là, il ne s'agit pas de faire la guerre aux Russes. Il s'agit de répondre à une violation d'une règle internationale, d'un traité commis par le régime syrien. Donc, il faut frapper des installations où les Russes ne devraient pas être. D'ailleurs, pourquoi les Russes ?
Il se trouve qu'ils y sont.
Mais c'est quand même un sujet. Pourquoi les Russes occupent ? Parce que c'est bien.
S'ils étaient là, ils vous diraient à la demande du gouvernement légitime de la Syrie.
Ça vous rappelle quoi, ça ?
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses, oui. En Afghanistan aussi, ils étaient à la demande du régime. Donc, on voit bien qu'il y a une possibilité. C'est sans doute pour ça que le temps a été laissé. C'est la seule hypothèse que je retiens. Parce que dans ces cas-là, vaut mieux aller vite, hein. Si on veut éviter justement les escalades. Hein.
Oui. Et vous trouvez que ça prend trop de temps ? Ça fait 4 jours.
Je pense qu'il y avait une nécessité, sans doute, d'aller vers le Conseil de sécurité. Moi, j'en connaissais d'ores et déjà l'issue. Mais pendant ce temps-là, sans doute, le régime s'est organisé. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a nécessité de dire aux Russes, écartez-vous, il y aura nécessairement une sanction.
Revenons, François Hollande, à votre livre, Les leçons du pouvoir chez Stock, et sur le moment où vous avez choisi de le publier. Pourquoi maintenant ? Pourquoi si tôt ? Moins d'un an après votre départ de l'Élysée, la victoire d'Emmanuel Macron, beaucoup y voient une volonté de revanche à l'égard de votre successeur. Ont-ils complètement tort ?
Oui, parce que tout le livre, c'est sur des leçons que je tire pour moi-même, et que je veux livrer aux Français. Parce que j'ai exercé la responsabilité du pays pendant 5 ans, dans une période extrêmement lourde. Vous avez rappelé, pas besoin ici d'en faire le récit. J'ai donc pu donner une conception des institutions, de la manière avec laquelle j'ai présidé la France, et revenir sur des décisions intérieures, extérieures, qui ont des conséquences encore aujourd'hui, car j'ai cette conclusion, c'est qu'un président ne travaille pas pour lui-même, il travaille forcément, pas simplement pour l'histoire, mais pour son successeur ou ses successeurs. Donc je voulais éclairer les Français sur les choix que j'avais faits.
Enfin, vous avez fait assez de politique pour savoir quels sont les effets possibles d'un livre politique.
Oui, mais après, il peut y avoir des comparaisons qui peuvent se faire, mais c'était pas mon intention, et c'est toujours pas mon intention. Moi, je ne suis pas du tout dans l'amertume ou dans le règlement de compte. Je considère d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin de nourrir ce type de sentiment. J'ai été président de la République française. C'est la plus belle responsabilité qui pouvait m'être confiée. C'est l'honneur le plus grand que je pouvais assurer et assumer. C'est finalement un destin exceptionnel que présider la France. Alors pourquoi je viendrais maintenant chercher chicane ? Sûrement pas. Mais j'avais ce devoir de vérité à l'égard des Français. Il y avait suffisamment de livres qui avaient été écrits sur cette présidence, suffisamment de commentaires, suffisamment de bavardages quelquefois pour que je prenne la parole, si je puis dire.
Vous parliez de vous, là, avec bavardage ?
Non, parce que moi j'ai toujours exprimé avec les journalistes ce que j'avais à dire et j'ai fait confiance à la presse. Après, on peut en tirer les conclusions que l'on
en
veut.
En tout cas, dans ce livre, vous exercez votre propre droit d'inventaire sur le quinquennat. Vous formulez des regrets, par exemple, sur l'inscription dans la Constitution de la déchéance de la nationalité pour les terroristes binationaux. Vous justifiez votre approche. Vous dites qu'elle n'était pas politicienne, elle était rationnelle, mais vous aviez sous-estimé la dimension irrationnelle du débat qui allait s'ouvrir. Excusez-moi, mais quand on fait un droit d'inventaire, est-ce que les choses ne sont pas beaucoup plus simples que l'irrationalité de la rationalité ? Est-ce que ça n'était pas tout simplement une mauvaise idée et une faute qu'il ne fallait pas faire.
13 novembre des attentats sont commis et sont menés par une organisation Daesh avec une décision qui est prise de Syrie et avec une organisation qui trouve des ramifications en Belgique, en France et avec des complicités dans certains pays d'Europe avec donc une volonté de nous faire la guerre. Le 13 novembre vient après, pas besoin de le dire, les attentats du mois de janvier. Pour les Français, c'est un traumatisme considérable. Le pays peut se déchirer. La politique peut s'emparer de ce désastre, de cette tragédie pour faire en sorte que nous ne soyons pas capables de nous mettre en bloc unis face à ce terrorisme islamiste. Et je vois tous les ferments de ce que peut être un pays divisé et chaviré. Je fais donc une intervention le 15 novembre, donc au congrès à Versailles, le Parlement est réuni, et j'ai consulté tous les partis, je dis bien tous les partis, et je cherche des voix qui puissent réunir. La déchéance de la société qui existe dans notre pays, et pas simplement pour des crimes terroristes, mais pour des délits terroristes, et qui a été appliqué par Jacques Chirac, par également moi-même, pendant les responsabilités qui ont été les nôtres.
Là, c'était les binationaux et la Constitution.
Là, je veux élargir la déchéance de nationalité qui existe aux doubles nationaux qui ont été naturalisés à leur arrivée en France.
Mais vous regrettez ou
alors,
pas?
Alors, non, j'y viens.
François Hollande.
Ce qui devait être une proposition pour unir, très rapidement, divise. Donc, elle n'a plus de sens. Ce qui devait être un facteur de cohésion devient un élément de division supplémentaire. Donc, je retire. Et je peux rétrospectivement dire que je n'avais pas besoin, peut-être, de faire cette proposition. Est-ce qu'elle était de nature à choquer? Moi, je ne le pensais pas. Elle a choqué. Et elle a choqué des personnes qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Des doubles nationaux qui disaient, est-ce que c'est parce que nous, maintenant, on est double national qu'on commence? Et nous, on a confiance en vous. C'est pour ça que je leur dis, on l'a inscrit dans la Constitution pour éviter que ce soit utilisé. Mais qui nous dit qu'après, ça ne sera pas instrumentalisé? Donc, j'ai pris cette décision de retirer. Et si vous voulez que je dise que je le regrette, je l'écris.
Autre regret, Monsieur le Président, la PMA, vous avez fait le mariage pour tous, mais vous vous êtes arrêté là. Vous n'avez pas osé aller jusqu'à étendre la PMA à toutes les femmes, et vous l'écrivez, je le regrette.
Oui. D'abord, la loi sur le mariage et l'adoption n'a pas été une loi facile à faire adopter. Si, au Parlement, nous avions la majorité très largement pour le faire. Mais dans le pays, il y avait des contestations. Et j'ai toujours pensé que ce serait dur de faire admettre par des groupes ou par des individus ce que devait être cette évolution légitime, attendue, espérée, et qui est la dignité de la France. Donc, je ne voulais pas ajouter, notamment sur une loi bioéthique, la PMA, mais je l'ai regretté. Pourquoi? Parce que plus tard, quand j'ai pu rencontrer des associations LGBT et qui m'ont dit, pas leur reconnaissance, parce qu'elles n'avaient pas à me dire merci, c'était quand même un mouvement qu'elles avaient elles-mêmes provoqué. Enfin, il se trouve que c'est une loi qui s'est fait adopter pendant ma présidence. J'ai vu des femmes qui m'ont dit, mais vous voyez, nous avons des enfants, trouvez que c'est digne pour un pays comme la France que nous soyons obligés d'aller en Belgique pour nous faire inséminer.
Et malgré cela, vous n'êtes pas allé au bout.
Donc j'ai dit, je n'ai pas voulu aller au bout parce que je ne voulais pas ajouter encore. On aurait dit que j'aurais exploité, que j'aurais voulu diviser. Non, aujourd'hui, qui met en cause la loi sur le mariage et l'adoption? Même ceux qui se sont opposés, qui venaient avec leur parka là, de manifester, vous l'avez vu?
C'est un manque de courage?
Non, c'était peut-être aussi un souci d'équilibre. Mais je l'ai regretté sur le plan humain, si vous voulez. Parce que moi, j'aurais souhaité dire à ces femmes, oui, si vous avez des enfants aujourd'hui, c'est en France que vous les avez conçus.
Thomas Legrand.
Monsieur le Président, j'ai revu votre conférence de presse du 14 janvier 2014. Et c'est étonnant de la revoir parce que vous preniez, je cite, la mise en mouvement, pas en marche, hein, mais en mouvement de la société française. Il faut, dites-vous, redonner de la force à l'économie. Et il faut lui redonner de la force par le pacte de responsabilité. Vous parlez de compétitivité et même de politique de l'offre. Et on se dit, puisque c'était ça la politique que vous jugiez utile et efficace, pourquoi ne pas l'avoir mis en œuvre dès 2012. Est-ce que c'était les conditions politiques, trop d'années de synthèse, qui ont empêché finalement de faire ce que vous pensiez bon pour la France dès le début? François Parce qu'après Hollande. Vous dites que finalement bah, ça va pour les autres et pas pour vous, c'est pour ceux qui, vous, vos successeurs.
François Hollande.
Dans le livre que je viens de publier, je reviens sur le discours du Bourget, parce que c'est le discours fondateur. Dans le discours du Bourget, il y a tout. Il y a l'exigence du redressement, parce que je sais que quand je vais arriver aux responsabilités, même si je ne suis pas sûr au moment où je fais ce discours que je vais être élu, je sais que l'état de l'économie française est tel qu'il va falloir améliorer sa compétitivité et faire en sorte que nous puissions renforcer notre appareil industriel. Dans le discours du Bourget, il y a aussi des attaques très dures que je revendique encore aujourd'hui contre la finance prédatrice et des rémunérations excessives. Mais je prends la première décision avec Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. La première décision de politique de l'offre que je revendique, parce qu'à ce moment-là, il fallait qu'elle puisse être menée. L'offre n'est pas contradictoire avec la demande. L'offre n'est pas contradictoire avec la justice sociale. C'est la nécessité d'avoir des entreprises fortes. Donc je prends cette décision de créer le crédit impôt compétitivité emploi après le rapport Gallois en novembre 2012. J'attends pas 2014. Je le fais tout de suite.
C'est en 2014 que vous constatez qu'il y a urgence.
Et qu'il y a nécessité en 2014. Une fois que les comptes publics ont été...
Vous dites en 2014, depuis 10 ans, on a été trop lentement.
Oui,
vous
le dites. François Hollande.
Donc, en 2014, je mets une deuxième étape après avoir lancé le crédit impôt compétitivité emploi fin 2012, avec le pacte de responsabilité. Parce qu'il faut encore donner un certain nombre de forces supplémentaires à l'entreprise française pour qu'elle puisse créer des emplois. Est-ce que cette stratégie, parce que c'est la seule question qui mérite d'être posée, pardon, c'est est-ce que cette stratégie a eu des résultats? Si elle n'en avait pas eu, je m'inclinerais. Je dirais devant vous, non seulement j'ai pris cette décision et elle pouvait être mal comprise par mes électeurs, parce que ça a été quand même, c'est pas si évident de dire à des électeurs qui avaient déjà fait beaucoup de sacrifices sous le précédent quinquennat, je parle de Nicolas Sarkozy.
Le pacte de responsabilité 2014,
oui.
Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt?
Mais je vous l'ai dit, j'ai fait le crédit impôt compétitif.
Oui, bah oui. Ça n'a pas suffi.
Mais il en fallait encore une deuxième étape. Oui. Donc, je ne pouvais pas tout faire au début. Mais si ça n'avait pas, pardon du mot, marché, si ça n'avait pas eu de résultats, devant vous, je dirais, j'ai eu tort. Mais ça a donné des résultats. Parce que si la croissance est là, et personne ne la nie, si les entreprises peuvent investir, et elles ont investi, si l'embauche a pu être reprise à un niveau très, très important, si le chômage a pu être diminué,
c'est grâce à
cette politique. C'est pas grâce à moi, mais c'est grâce aux décisions qui ont été prises et à l'effort des Français, parce que néanmoins, ce sont eux et les salariés en particulier qui ont fait cet effort, et c'est pour ça qu'ils méritent quand même qu'on puisse les récompenser.
Vous consacrez de longues pages de votre livre à la parole présidentielle. Quand parler? Comment parler? Sous quelle forme? Parler peu? Être rare? Parler tout le temps? Vous dites que vous avez absolument tout essayé, tous les formats possibles à la télévision, les classiques comme les originaux, sans jamais trouver la martingale. Emmanuel Macron va s'exprimer tout à l'heure aux 13h de TF1 dans une école de Berduy avec Jean-Pierre Pernaut. Peut-il en sortir quelque chose, d'après vous, la parole d'un président aujourd'hui sans grande prise sur le pays?
Ah non, je ne dis pas ça. La parole présidentielle, elle compte dès lors qu'elle se traduit en décision. La parole présidentielle, elle peut être très lourde. Quand est-ce que j'ai été sans doute le plus écouté? J'y reviens dans le livre. C'est à une heure qui n'est pas celle de la grande écoute. Hein. C'est à minuit quand je m'exprime le soir du 13 novembre. Parce que là, on se retourne nécessairement vers le président. Que va-t-il faire? Que s'est-il passé? Quelles sont les décisions qui vont être annoncées? Alors, la parole...
Ça, c'est l'exception, hein, vous le reconnaissez vous-même.
Oui, mais la parole présidentielle, elle suppose qu'il y ait des situations, aujourd'hui il y en a qui ne sont pas de même nature, mais il y en a, et qu'il y ait une traduction. Mais je reviens, parce que vous avez raison, c'est un sujet qui m'anime et m'habite. Tout président qui s'installe, et j'ai été de conforme au modèle, dit il faut que la parole soit rare, il faut que je sois entendu. Bon. Mais c'est fini ce temps-là. Chaque jour que le président accomplit pour le pays, il s'exprime, il parle, et il va dans tout sur le territoire, il y a toujours quelqu'un qui filme ce qu'il va prononcer ou ce qu'il va faire voir. Parce qu'il y a aussi une communication non-verbale, si vous voulez. Donc, tous les jours, on a le président, celui-là, comme je l'étais hier et avant moi. Et à un moment, c'est le constat que je fais, quand il y a chaque jour un feuilleton, on finit par perdre le sens du film.
Est-ce que vous avez le sentiment que la presse, les journalistes, les médias sont plus indulgents avec Emmanuel Macron qu'ils l'ont été avec vous?
Moi, je suis très soucieux des corps intermédiaires. Être président de la République, c'est bien sûr être au sommet de l'État et prendre des décisions. Et il faut qu'il y ait de l'autorité. Il faut qu'il y ait un chef dans une situation aussi compliquée. Il faut qu'il y ait une direction. Mais un président qui peut être seul, quand il est confronté à ses choix, ne peut pas réussir seul. Il doit accepter qu'il y ait des pouvoirs qui rééquilibrent. Alors, ces pouvoirs-là sont connus, c'est le Parlement, les élus, les partenaires sociaux, syndicats, organisations professionnelles, les associations. Mais la presse, moi je considère que la presse est menacée comme la démocratie l'est. C'est-à-dire que nous sommes dans une période exceptionnelle, que les Français doivent bien regarder comme telle. Moi, je fais partie d'une génération où la démocratie, elle était en mouvement et en progrès partout dans le monde, où le mur de Berlin s'est effondré, où les pays émergents aspiraient aussi à la liberté, à la démocratie.
On va y revenir.
C'est fini. Aujourd'hui, c'est pour l'instant arrêté. Et même dans notre pays, dans notre Europe, il y a ce recul. Et la presse, pour moi, elle est aussi menacée.
Et sur le fond de la question
donc,
de Léa...
Je veux, donc, pour moi, j'ai pris peut-être beaucoup de risques en parlant à la presse, mais je ne le regrette pas. Parce que je veux que la presse puisse jouer tout son rôle. Ce que je regrette, pardon, c'est que la presse elle-même ne se fasse pas respecter comme elle doit le faire.
Vous avez l'impression que la presse ne se fait pas assez respecter pas assez. En ce moment ?
Pas assez, je pense que... Il ne s'agit pas de porter des critiques, la presse le fait très bien. Mais sur sa place... Sur son rôle, pas sur le bruit. Sur le bruit, la presse est très présente. Mais sur sa conception de ce qu'est la démocratie.
Vous dites, François Hollande, dans ce livre, que vous appartenez à l'ancien monde. Que cet ancien monde balayé à la présidentielle est le vôtre et qu'il a de l'avenir. Mais jamais vous ne qualifiez le nouveau monde. C'est quoi, selon vous, idéologiquement, le macronisme ?
Non, ça je n'ai pas à le faire, c'est pas le but de mon livre. Moi je fais un livre, non pas sur le hollandisme, je me garderai bien, mais sur ce qu'est le pouvoir, la présidence, la démocratie et les défis essentiels.
Non mais si vous aimez tant l'ancien monde, qu'est-ce que le nouveau vous séduit pas.
Je vais vous parler de l'ancien monde.
Pourquoi ?
Qui n'est pas promis effectivement à disparaître. L'ancien monde c'est la démocratie. L'ancien monde ce sont des partis qui... exprime le suffrage universel.
Et le nouveau, c'est quoi alors ?
C'est pas la démocratie, le nouveau monde ?
Je vous parle d'abord de l'ancien. Je vais arriver au nouveau. Ce sont des partis, c'est un parlement, ce sont des partenaires sociaux, ce sont des corps intermédiaires, ce sont des élus, ce sont des territoires. C'est ça. C'est ce qui a fait que notre pays est ce qu'il est. Alors, le nouveau monde, il existe. Il existe, c'est celui de l'univers numérique qui fait que toute information se mêle à toute rumeur. C'est celui de partis qui n'existent pas. En fait, il y a aujourd'hui en France des partis qui n'ont pas, qui ont peut-être des militants, qui ont peut-être des adhérents. Enfin, on ne sait pas comment les dirigeants sont choisis. Il n'y a pas de délibération collective.
La République en marche.
Mais pas seulement. Les groupes des insoumis. Regardez, puisque vous parlez, vous connaissez le bureau politique, vous, des insoumis. Vous savez que comment les dirigeants sont choisis. Bon, donc il y a ce nouveau monde, c'est quoi? C'est le fait de dire finalement, est-ce que le Parlement n'est pas un obstacle qui devient presque inutile? On peut même réduire le nombre de parlementaires. Pourquoi réduire d'ailleurs à 400? Peut-être 2 ou 3 suffiraient, ou une consultation.
Vous n'êtes pas favorable à la révision
constitutionnelle? Je ne suis pas défavorable, mais je veux dire, c'est pas un but en soi. Qu'est-ce qu'on veut faire du Parlement? Donc, ce que pour moi,
le nouveau monde, François Hollande.
Si le nouveau monde, c'est la mise en cause de ce que la démocratie a produit, qui doit être rénové, parce que bien entendu, on ne débat plus aujourd'hui comme à l'ancienne. Bien entendu, on ne fait pas des partis politiques qui sont confinés, enfermés. Bien sûr que les syndicats doivent évoluer, ils évoluent. Bien sûr que les corps intermédiaires ne peuvent pas être des corporations. Mais voyez, ce qui est très important, c'est qu'on garde les principes de la démocratie. Après, il y a des nouvelles technologies, il y a des façons de faire plus rapides. J'en conviens tout à fait. Mais arrêtons de me parler d'un nouveau monde qui serait quoi ? Qui serait finalement une étape supplémentaire de la démocratie ? Où est l'étape supplémentaire de la démocratie ?
François Hollande, il y a un chapitre consacré à Emmanuel Macron dans votre livre que vous avez titré « Faire confiance ». Emmanuel Macron vous doit beaucoup, vous lui avez donné sa chance comme conseiller à l'Élysée, puis à Bercy, vous l'écrivez. Vous dites qu'on vous pose en permanence la question « Emmanuel Macron vous a-t-il trahi ?» Et vous racontez en détail dans le livre comment, mois après mois, vous avez vu son ambition naître, s'affirmer, s'assumer jusqu'à la candidature finale. Vous dites « mon tort a été de lui faire confiance ». Franchement, François Hollande, vous êtes dans la politique depuis des années. Vous connaissez les tractations politiques comme personne. Le fin stratège que vous êtes, qui a été mis en garde plusieurs fois, vous l'expliquez, vous le racontez, par Manuel Valls, par Stéphane Le Foll, le fin stratège que vous êtes, c'est contenté de faire confiance. C'est quoi? C'est de la naïveté, de la légèreté, de l'impuissance? C'est quoi?
Faire confiance, c'est un principe de vie, y compris sur le plan politique. On peut pas être à la tête du pays et suspecter tous ceux que vous avez nommés de fomenter je ne sais quelle stratégie ou tactique pour leur ambition personnelle. Donc moi j'ai constitué une équipe et Emmanuel Macron en a fait partie, d'abord comme conseiller, ensuite comme ministre, parce que je pensais que ses qualités pouvaient être au service du bien commun et je ne le regrette pas. Mais après, faire confiance, ça suppose qu'il y ait des principes aussi de réalité. Pour vous dire, est-ce que j'ai été naïf ? Je n'ai jamais pensé qu'il soit possible qu'il y ait plusieurs candidats au sein même de ce qu'était un gouvernement et une majorité. Parce que ce n'était pas possible. Parce que c'était forcément ouvrir à la droite et à l'extrême droite le chemin de la victoire.
Bah, c'était possible.
C'était possible parce que, justement... Pour deux raisons, ça a été possible. Pas simplement pour la chance et l'audace d'Emmanuel Macron, mais ça a été possible parce que la gauche s'est divisée et parce que la droite a maintenu un candidat qui était discrédité. Voilà la réalité.
En fait, vous avez cru que c'était impossible parce que vous aviez les schémas de l'ancien monde. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de transgresser ces schémas-là.
Sur la transgression, il a des prédécesseurs. La compétition politique, comme vous dites, j'ai jamais été naïf. Sur les trahisons, il y a des cas illustres. Donc ça, je pense que c'est tout à fait concevable. D'ailleurs, dans la vie politique, je pense que chacun doit faire valoir son talent et sa chance. Mais là, j'ai considéré que moi, j'avais en tout cas fait en sorte, et je raconte par le détail, ce qu'a été notre relation au cours des 5 ans de ma présidence. Et s'il devait y avoir compétition, je termine là-dessus. S'il devait y avoir compétition, elle est possible et légitime. Elle devait se faire au grand jour et être assumée. Elle ne l'a pas été.
Bernard Guetta.
Monsieur le Président, c'est un phénomène mondial. D'Israël à la Scandinavie, de France en Pologne, partout, partout, la social-démocratie est en pleine déconfiture. Alors, à vos yeux, quelle en est la principale raison, premièrement? Et deuxièmement, cette social-démocratie, cette gauche du compromis, peut-elle ressusciter un jour dans un demi-siècle?
Dans un demi-siècle, je ne sais pas, je vais parler pour moi, nous serons là pour l'observer, donc il vaut mieux aller plus vite. Mais nos démocraties doivent beaucoup au socialisme de gouvernement, et à la gauche. S'il y a eu des progrès sociaux, s'il y a des progrès sociétaux, j'en ai évoqué plusieurs, c'est bien parce qu'il y a eu cette force qui s'est créée partout en Europe et qui a fait que nos sociétés sont équilibrées, ou étaient équilibrées, parce que ce n'est plus vrai aujourd'hui.
D'où la question. Alors, quelle est la raison ?
Je pense que une part du modèle social-démocrate, du modèle socialiste tel qu'il était conçu, on dirait dans l'ancien monde, il s'est épuisé par ses propres réussites. Ça, c'est le premier facteur. Ce qui explique qu'aujourd'hui, dans l'Europe des 27, je mets à part donc le Royaume-Uni, qui s'est lui-même mis à part, il n'y a plus que 2 gouvernements. 2. Si je n'inclus pas, pour des raisons que vous comprendrez, la Roumanie et la Slovaquie dans le lot. Donc 2 gouvernements sur 27.
Les Portugais.
Portugais et les Suédois. Il y a aussi la Grèce qui, maintenant, a pris ce virage. Nous sommes dans cette situation politique. Il y a une deuxième raison, et qui est beaucoup plus lourde et beaucoup plus grave, et que je veux absolument exprimer devant vous. Les populistes se sont installés depuis des années à droite, enfin à l'extrême droite en l'occurrence, et à gauche, pas simplement à l'extrême gauche. Double contestation du monde, de la mondialisation, qui a bien sûr ses excès, et qu'il faut combattre, je parle des excès, et ensuite contre l'Europe, très clairement. Donc la question européenne est une question fondatrice pour les socialistes et pour les sociodémocrates. Et je les appelle donc non seulement à être européens, mais pas à être européens bien, à être européens réalistes. Et on y reviendra peut-être sur les questions de sécurité et de défense. Et je les appelle aussi à vouloir renouveler leur message et parler de l'individu plus que du collectif, l'individu devant être garanti par des droits collectifs. Et c'est ce que j'ai fait avec le compte personnel d'activité, avec des réformes comme le compte pénibilité, où chacun doit avoir des droits pour lui-même. Et s'il y a des propositions à faire, et il y en a encore, j'en fais dans mon livre, c'est sur les droits et les dotations patrimoniales.
Mais alors, l'intime conviction, elle ressuscite ou pas ?
L'intime conviction, c'est que je pense que la montée des inégalités, les désordres du monde, le recul de la démocratie, les risques majeurs pour la planète sur le plan climatique offrent à la gauche de gouvernement, parce que la gauche, elle veut aller au gouvernement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, d'ailleurs, qu'il y aurait une gauche de gouvernement, une gauche de pas de gouvernement? Il y a une gauche, s'il y a une gauche, c'est qu'elle veut aller au pouvoir, ou alors elle disparaît. Mais donc, la gauche a un avenir.
Pendant une partie de votre quinquennat, François Hollande, la gauche, précisément, a eu tous les pouvoirs. Élysée, Assemblée, Sénat, ville, région, département. Après votre quinquennat, elle est décimée. Dans le droit d'inventaire, quelle est votre propre responsabilité dans cet effondrement?
Dans ce livre, je reviens sur ma responsabilité. Être président, c'est être responsable de tout. Donc j'assume tout. Je ne me défausse sur rien ni sur personne. Mais je revendique le droit de défendre ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, parce que je ne suis pas le seul. Et ensuite, parce que je considère que nous avons fait avancer la France et l'Europe.
Mais
etc.
Ça, c'est pas de votre responsabilité.
Mais la responsabilité, je n'ai pas été candidat. Ça a été rappelé, c'est un fait incontestable. Je n'ai pas été candidat, je me suis sacrifié. Je prends ce mot aussi dans le livre. Je me suis sacrifié parce que j'aurais pu l'être. Obsédé, comme beaucoup, par l'idée de la réélection, qui n'aurait eu comme seul intérêt que de venir devant les Français. Je n'ai pas été candidat en décembre 2016, dans un contexte particulier qui n'était pas le même.
Vous le regrettez,
trois mois après.
François Hollande.
C'est comme ça.
Vous le regrettez.
On refait pas l'histoire. Mais donc,
vous le regrettez un peu.
En février, peut-être le paysage politique était différent. Mais j'ai pris la décision en décembre.
Peu, c'est bien ce que je dis.
Oui, on a entendu.
J'ai entendu, oui. Et en décembre, si j'avais déclaré ma candidature, c'était l'assurance. C'est pour ça que j'ai pris cette décision, que la droite et l'extrême droite seraient au second tour. Je ne l'ai pas voulu. Donc, qui s'est présenté, parce que c'est intéressant, qui s'est présenté aux élections pour le Parti socialiste? Sur quelle politique? Un frondeur. Il a fait combien, le frondeur?
6.
Bon. Donc, c'est pas ma politique qui a été jugée là. Bon. C'est celle qui a été contestée par moi, qui a été ainsi sanctionnée.
Dans votre livre, une grande partie de l'échec ou des échecs de votre quinquennat, vous les imputez aux frondeurs, dites-vous, qui vous ont mené une guerre idéologique quasiment pendant les 5 ans. Vous, président François Hollande, normalement, il y a de l'autorité dans la fonction. Pourquoi ne les avez-vous pas matés, les frondeurs?
Mais un président a beaucoup de pouvoir.
Il peut tenir son camp, pour commencer.
J'ai tout fait pour les amener à la raison. Parce que dès le début, ils se sont mis en opposition, y compris sur le premier texte qui est venu au Parlement, le traité budgétaire européen, auquel j'avais pourtant ajouté un plan de croissance. Mais je ne pouvais pas les éliminer du Parlement. Je ne pouvais pas les éliminer.
Je ne vais pas parler de liquidation, geste d'autorité.
Moi non plus. Hein,
pas dans les exclure du parti.
Les exclure du parti. Bon, ils étaient à l'Assemblée. Cette fronde, elle n'est pas venue de l'extérieur. Elle est venue de l'intérieur.
Ils se disaient fidèles à votre campagne, en tout cas.
Enfin, ils n'avaient même pas soutenu pour la primaire du Parti Socialiste. Donc, leur fidélité était tout à fait limitée. Mais je considère qu'ils ont eu un effet tout à fait négatif. Parce que non seulement ils ont affaibli la crédibilité de ma politique, mais ils n'ont pas assuré visibilité de la leur.
Et vous étiez impuissant face à ça.
J'ai fait en sorte d'essayer de les convaincre, je n'y suis pas parvenu, mais eux-mêmes ont scié la branche sur laquelle
j'étais assis.
Mais
vous voyez comme Emmanuel Macron tient sa majorité, en tout cas depuis un an.
Mais exactement, vous avez raison. Donc quelle est la conséquence? Ces frondeurs ont eu aussi ce défaut, c'est qu'ils obligent maintenant une assemblée à être totalement silencieux, je ne dis pas disciplinée. Silencieuse. Moi, j'aurais tout à fait admis, je l'ai tout à fait admis, le débat, la controverse, la discussion. Mais quand un acte est posé après le débat, il doit être respecté. Ce que j'en veux le plus aux frondeurs, c'est l'indiscipline. C'est pas d'avoir des idées différentes des miennes. Moi, je suis un démocrate, même comme président, j'ai tenu à ce qu'il y ait des opinions dissidentes. Mais à un moment, la décision est prise, elle doit être respectée. Comme être obligé de poser le 49-3 pour faire voter un texte, sur le travail le dimanche, dont d'ailleurs ceux qui s'y étaient opposés, demandent maintenant qu'il y ait des ouvertures dans leur ville pour avoir davantage de travail dimanche.
Léa Salamé.
On connaît votre pudeur proverbiale quand il s'agit de votre vie privée. Vous devez être l'homme politique qui a le moins exhibé sa vie privée et son couple. Alors on imagine vos efforts à consacrer 3 pages dans ce livre aux femmes de votre vie. Vous faites un très bel éloge de la mère de vos enfants, Ségolène Royal. Vous évoquez, je cite, les souffrances de Valérie Trierweiler. Et vous louez l'engagement et la discrétion de votre compagne actuelle, Julie Gayet. Mais quand on referme le livre, François Hollande, on se dit que votre rencontre féminine la plus importante de votre quinquennat, c'est Christiane Taubira.
Je veux lever tous les soupçons. Non,
une femme vibrante, ardente, oui, exigeante, nous comprenons.
Là, vous mettez sur un autre niveau. Je pense que Christiane Taubira, d'abord, est une femme qui n'a pas forcément toujours les mêmes idées que les miennes, mais a toujours la même loyauté. Et quand elle a dit quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle va se mettre en opposition ou en dissidence. Et puis, elle a, je l'ai vu dans certaines circonstances, un art oratoire presque poétique. Elle manie la langue française admirablement. Et si tous ceux qui ont des mauvaises langues pouvaient parler aussi bien, eh bien, à ce moment-là, on les écouterait davantage.
Vous ne regrettez pas de ne pas avoir clarifié les choses dans votre vie privée ?
Je laisse chaque Français réfléchir à ce qu'est la clarification dans sa vie privée, ce qui est compliqué. ce qui est compliqué, c'est bien sûr ces décisions intimes, lourdes, difficiles. Quand on est président, ces décisions intimes sont forcément publiques.
Maintenant que sur vous, les portes de l'Élysée se sont refermées et que vos mémoires vous avez publiées, est-ce que vous vous ennuyez, François Hollande ?
Pas avec vous, mais
c'est fini,
je ne suis pas ennuyé
minutes, hein.
Parce que j'ai une activité comme président d'une fondation. La France s'engage, que je crois à l'engagement. J'avais lancé cette idée.
Est-ce que la vie est moins intense quand même ?
Elle l'est, à l'évidence.
Elle vibre moins.
Ben, vous passez de l'agenda surchargé, raturé, au vide. Au vide d'un seul coup. Et c'est bien aussi ça, la démocratie. On n'est pas président à vie. On ne veut pas avoir un droit d'être encore sollicité. Il faut accepter ce sort. Pas ce destin, ce sort. Mais
c'est pire.
Ensuite... Non, parce qu'on peut toujours, par son destin, sortir du mauvais sort. Mais j'ai pas eu un mauvais sort. J'ai eu un destin formidable. J'espère pas encore complètement terminé.
Des responsabilités européennes ?
Non, je cherche pas de responsabilité. Ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, il y a forcément une rupture, un changement considérable. Et pour ça, il faut pas essayer de se projeter dans n'importe quelle situation, ni de vouloir régler des comptes, parce que tout ça, c'est l'amertume n'est pas un sentiment que je partage. Donc, je laisse ça à d'autres. Il y a de nombreux candidats. Donc, je suis lancé dans l'écriture de ce livre aussi pour ça. Et ça m'a donné beaucoup de bonheur. J'espère que beaucoup auront le même bonheur à le lire.
Il est 8h56. Restez avec nous, Monsieur le Président. Frédéric Beigbeder, c'est à vous.
Faut peut-être que vous mettiez le casque pour
J'entends.
Profiter. Vous entendez
J'ai encore, à mon âge, une oui à peu près convenable.
Bonsoir, Monsieur le Président de la République, et bienvenue au spa auditif. Frédéric Beigbeder, Paris, Pattaya, Tulle. 3 minutes de débit vocal ralenti et de massage de l'oreille interne. Vous aimez la flûte de Pan, Monsieur le Président ?
Oui, elle peut conduire quelquefois à s'égarer.
Parfois, ça peut être du pipeau, mais c'est un autre instrument. Peut-être dans 3 minutes me direz-vous merci pour ce moment, Frédéric.
Je le goûte déjà.
J'ai lu votre livre. Visiblement, vous avez besoin de vous détendre quand même. Alors, on inspire par le ventre, on expire par la bouche. Ne trouvez-vous pas un peu agaçante cette formule honorifique, Monsieur le Président ? Tous les gens que vous croisez vous rappellent la fonction qui fut la vôtre durant 5 ans. Ça doit être un peu saoulant. C'est peut-être à cause de cette formule de courtoisie que certains anciens présidents croient qu'ils le sont à vie. Alors faisons le vide dans notre cerveau, même si c'est difficile de tout oublier. Ce matin, je voudrais surtout m'adresser à François Hollande, l'humoriste. Vous savez que ces chroniques de la fin du 7-9 sont censées être comiques, ce qui n'est pas évident, en particulier le jeudi. Comme vous avez la réputation d'être le président le plus marrant de la 5e République, monsieur Petite Blague, peut-être pourriez-vous m'aider, me fournir quelques vannes sur l'actu ? Non ? Bon. Alors j'en ai trouvé une bien bonne dans votre livre, Les leçons du pouvoir, je cite « L'ancien monde, c'est le mien, il a de l'avenir ». Je suis tellement d'accord avec cette blague parce que l'ancien monde est aussi le mien. Il y en a marre de ce vers d'Apollinaire, à la fin je suis là de ce monde ancien. Non, il était très bien le monde ancien, puisque ce fut celui de notre jeunesse. Mais ne pensez plus à votre successeur, non. Surtout oubliez ce soir au bar du Bristol où Jacques Attali vous a présenté un petit énarque blondinet que vous avez embauché sans imaginer qu'il allait vous piquer votre château. Je me souviens d'avoir inauguré avec vous la foire du livre de Brive-la-Gaillarde en 2008. À l'époque, c'était moi qui étais le président de cette foire et vous n'étiez même pas candidat. Alors pratiquons ensemble un petit exercice de self-retro-time meditation. Fermez les yeux. Vous nous voyez là, nous sommes en 2008 à Brive, donc j'étais président, pas vous. Et vous voyez, je m'en suis remis, j'ai tourné la page, I moved on. Il y a une vie après la présidence. Respirez, on se détend, on est bien. On est allongé sur une serviette éponge, massé avec des huiles essentielles par une thérapeute aux pieds nus, prénommée Léa. Ne pensez pas à tout ce qui vous manque, ni à la cave à vin de l'Élysée, ni à l'Airbus A330 présidentiel, et surtout pas au week-end à la lanterne. Forget the past. Est-ce que le vrai luxe, après ces 5 années de stress, de courtisans, de couverture de closer, de selfies avec des personnes à la dentition parfois douteuse, est-ce que ce n'est pas le silence, la solitude et la joie de ne plus avoir à subir les quolibets de chroniqueurs dans mon genre? N'est-ce pas cela la plus grande des récompenses?
Merci de me l'avoir donné pendant 3 minutes, alors que vos confrères ont été et consoeurs impitoyables.
Mais bien sûr.
Vous m'avez donné ici un réconfort et rien que pour ça, j'étais
c'est
heureux
bon, hein,
de participer à votre émission et j'espère que tous les auditeurs auront eux aussi ce moment de relaxation, et y compris à mon endroit.
Merci François Hollande, mais restez avec nous pour dialoguer avec les auditeurs de France Inter. On se retrouve dans quelques instants sur la page Facebook d'Inter.